Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs bien-aimés, c'est un des principaux enseignements de Jésus sur le renoncement chrétien. Ce qu'il nous dit ici est censé nous aider à comprendre le sens. Bien sûr, nous sommes assez d'accord, je pense, pour affirmer la nécessité de renoncer au mal, au péché, mais ce n'est pas ce dont il s'agit là. C'est plus difficile encore de le comprendre, puisqu'il s'agit de renoncer ici à des choses qui sont bonnes. Et c'est en cela que le renoncement chrétien aussi est singulier. Or, si vous avez bien écouté à l'instant l'Évangile, il y a une grosse contradiction. En tout cas, je vous mets au défi de la surmonter, parce que d'un côté, il y a deux enseignements qui sont enchevêtrés. D'un côté, Jésus nous dit qu'il est impossible de le suivre sans quitter ce qui nous est le plus cher, sans porter sa croix, sans renoncer à tout ce qui nous appartient. En un mot, il faut se dépouiller pour suivre Jésus. Et en même temps, il nous dit impossible de bâtir une tour, de remporter une bataille, impossible d'entreprendre et de réussir, quoi, sans calculer la dépense, sans voir si tu as assez en ressources, en effectifs. C'est contradictoire. D'un côté, il faut se dépouiller de tout, il ne faut rien avoir, et de l'autre, au contraire, il faut bien regarder ce que nous possédons. C'est difficile de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ici. Ça semble se contredire. Les paroles du livre de la sagesse, on a envie de les mettre sur ses lèvres. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? C'est pas clair. Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Dépouillez-vous de tout, mais évaluez vos provisions. Soyez fous, mais soyez prudents. Peut-être que pour nous aider à surmonter cette contradiction, eh bien, il faut faire un détour par ce passage extraordinaire que nous avons entendu en deuxième lecture, cet extrait de l'épître à Philémon. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Vous avez compris de quoi il s'agissait? Paul, l'apôtre, il écrit à Philémon. Paul, à ce moment-là, il est en prison. Il est assez âgé. Dis-moi, moi, le vieux Paul qui suis âgé. Bon. Et il dit, Philémon, j'ai quelque chose à te demander. Il se trouve que j'ai rencontré ton esclave, qui s'appelle comment l'esclave de Philémon? Onésime. Retenez bien ce nom. Onésime. Eh bien, Onésime, je lui ai donné la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai donné... Allez, louveteau, les louvettes, là. Le baptême, merci. Je lui ai donné le baptême, j'aurais pu le garder parce que c'est un chic type, je l'aime comme mon propre cœur, Onésime, mais je te le renvoie en te priant de l'accueillir comme un frère bien-aimé, parce qu'il a reçu le baptême. Autrement dit, cet esclave qui est un bien, alors évidemment c'est choquant de dire ça, il faut se remettre dans la mentalité de l'époque, mais un esclave ça coûte cher. C'est précieux, quand on n'a plus son esclave, il y a toutes sortes de choses qu'il faut assumer. Bon, non pas que l'esclavage soit une bonne chose, bien évidemment, et d'ailleurs cette épître à Philémon, et on peut en être très fier comme chrétien, va commencer à remettre en question l'esclavage de façon puissante, au point un jour de le supprimer. C'est une idée chrétienne qui va traverser le monde, en raison de l'affirmation de l'égalité des hommes. Et l'épître à Philémon, on peut être très fier de ce texte sacré et inspiré. En attendant, Paul lui dit à Philémon, ton esclave, il est très précieux pour toi, mais je t'enjoins à renoncer à le voir comme un bien utile, une source de profit et de confort, même s'il va continuer à te rendre service. Il faut qu'Onésime ne soit pas précieux pour de mauvaises raisons, mais pour de bonnes. Et ces bonnes raisons, c'est que c'est désormais un frère pour toi. Change totalement de regard sur Onésime. C'est à cette condition que je te le renvoie et qu'il pourra continuer à te rendre de service. » Je pense à cette autre parole de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 de la deuxième aux Corinthiens, j'aime beaucoup cette parole. Saint Paul fait un développement, il dit « Parce que maintenant je ne regarde pas Jésus de façon humaine, je regarde Jésus avec un regard de foi. Alors les autres aussi que je rencontre, de même je ne les regarde plus de façon humaine. Désormais, je le cite, nous ne regardons plus personne de manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne connaissons plus le Christ ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Ça, c'est le fondement de notre changement de regard les uns sur les autres. C'est d'abord l'acte de foi que nous posons devant le mystère de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. » Pourquoi je fais un lien avec l'apparente contradiction dans l'enseignement de Jésus ? Parce que aimer les siens, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, c'est bien, c'est nécessaire. Aimer sa vie, sa propre vie, bien sûr, c'est bien nécessaire. Et en ce sens, je crois que renoncer aux siens comme Jésus nous y invite, renoncer à sa famille, renoncer à sa vie, évidemment, ça ne signifie pas rompre avec sa famille ou se donner la mort, évidemment. Le renoncement chrétien consiste à aimer et à servir les siens et sa propre vie dans une lumière nouvelle qui est celle de la croix, en se refusant à regarder les êtres qui nous entourent et cette vie à moi confiée de façon trop humaine et limitée. Je veux regarder ma vie, je veux regarder les autres dans la lumière de la rédemption, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Je veux refuser d'oublier un seul instant le sens de mon existence passagère. Je me souviens de son ordination à la vie éternelle. J'aime mon papa, j'aime ma maman, mais il y a un moment où je dois aussi, quand je grandis, regarder mon papa comme un frère dans le Christ, ma maman comme une sœur dans le Christ. J'aime ma propre vie, et parfois je la déteste, ou je ne l'aime pas, c'est un problème ça, je me supporte difficilement. Eh bien j'accueille la révélation de l'amour de Dieu, c'est là que je suis en vérité. La vérité de ma vie, c'est le regard de Dieu, c'est le regard du Fils, mon Sauveur, sur ma vie. Alors voyez, s'asseoir et calculer ce qu'il faut pour construire une tour ou engager une bataille, c'est une image de la prière, de la méditation qui précède l'action et toute action, tout engagement. Alors c'est bon de l'entendre au début d'une année, évidemment. Avant de me jeter dans l'action, de prendre tel ou tel engagement, je me jette en Dieu. Le renoncement chrétien, c'est un ressaisissement. Le renoncement chrétien, c'est un recueillement en premier ordre. J'apprécie, je juge des événements dans la lumière de la révélation divine, du point de vue de l'éternité, du salut. J'apprécie et j'aime les autres dans la lumière de la révélation divine, dans la lumière de la foi et de l'amour. Ce que j'aime, ce que je ne supporte plus, ce que je déteste ou que j'idolâtre plus loin, tous, pas la question, je veux les regarder dans la lumière de Dieu. Je renonce à mon regard trop humain sur les personnes, sur les choses, sur les événements. Le renoncement chrétien découle de la prière chrétienne. Vous voyez, il y a beaucoup plus qu'une petite morale. La cigale ayant chanté tout l'été se trouve à forte dépourvue quand la bise fut venue. Il faut réfléchir, il faut être prudent, il faut faire des... C'est beaucoup plus. La pause que nous faisons en présence du Seigneur dans la prière, elle consiste à regarder ma vie et toute l'existence et le sens de cette vie sur terre dans le regard de Dieu. Jésus nous enjoint de regarder la vie avec son regard à lui. C'est parfois crucifiant et douloureux de faire ainsi. Mais à la fin, au final, comme vous dites les jeunes, au final, à la fin, c'est toujours libérant et heureux. Désormais, nous ne regardons plus personne de manière simplement humaine. Comme c'est beau, comme parole de Dieu. Saint Paul qui dit ça. Désormais, nous ne regardons plus personne de manière simplement humaine. Vous savez, Pier Giorgio Frassati, Carlo Acutis, aujourd'hui canonisés, c'est des jeunes sur les lèvres desquels on peut mettre ces paroles de l'apôtre Paul, cette expression du renoncement chrétien, voir les choses en Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas si à Rome ils vont garder les paroles du jour, j'espère, parce que l'épître de Paul à Philémon, avec l'histoire que je viens de vous rapporter, il y a une belle correspondance dans la vie de Carlo Acutis, toute proportion gardée, puisque l'histoire est très récente. Mais justement, chez le petit Carlo, alors qu'il était jeune adolescent, vous savez qu'il a contribué à la conversion de Mohur, je ne sais pas comment on l'appelait, c'est un Mauricien hindou qui était au service de la famille Acutis. Et que Carlo, par la bonté de son cœur, va entreprendre pour lui faire connaître Jésus en le regardant comme un frère dans le Christ. Bel écho de la deuxième lecture de ce jour, c'est providentiel. Demandons, frères et sœurs, de poser sur la vie et les uns sur les autres le regard de Dieu même. Seigneur Jésus, au seuil de cette année, purifié par le sacrement du pardon reçu régulièrement, au contact de ta sainte Eucharistie reçue chaque dimanche, je te prie de placer ton cœur vivant en lieu et place du mien. Et ce faisant, je veux renoncer à regarder les autres et à regarder ma propre vie, à regarder ce que j'aime le plus au monde et ce que je ne peux pas voir en peinture, en regard, en dehors de ton regard d'amour. Je veux prendre ma croix à ta suite, à la suite de Carole et de Pier Giorgio, en renonçant à ma superficialité, aux apparences, en laissant la lumière de la vérité illuminer ma vie, dans l'espérance d'y être plongé un jour et pour l'éternité. Amen.